Il est l'heure de parler jardinage. Bon réveil et bienvenue parmi les jardinières. Ce matin, les jardinières se transforment en jardiniers. Et je suis ravi de vous accompagner, Brian. Bonjour.
Bonjour, Mike.
Et ce matin, nous recevons Jean-Pierre Ribaud. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour, tout le monde.
Jean-Pierre, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuve. Merci d'être avec nous ce matin.
Et les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Soyez les bienvenus.
7h, 8h, les jardinières.
Jean-Pierre, on va commencer directement. Selon les calendriers, nous sommes en plein dans les Saintes-Glaces. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est cette période de Saintes-Glaces ?
Oui, alors la période des Saintes-Glaces tombe toujours entre le 11 et le 13 mai de chaque année. Et puis le dicton dit que c'était trois saints. Alors il y en a un qui s'appelait Servin, l'autre Pancras et puis le troisième Mamère. Ces trois saints, quand ils arrivaient en fait sur ces trois jours, il est dit qu'avec eux, ils amenaient les derniers sursauts de froid, de gel, de givre, peut-être même de neige. Et puis qu'après ces trois vilains jours-là, eh bien le beau temps du printemps et de l'été arrivait. Alors à l'évidence, maintenant avec le réchauffement climatique, ces dictons s'estompent un peu, quoique on aime bien les garder en mémoire quand on fait des plantations, surtout dans le potager, parce qu'on a quelques plantes qui sont quand même très très délicates au niveau des froids. Et puis planter un petit peu trop précoce, eh bien on pourrait avoir beaucoup de casses ou ça pourrait bloquer les développements de ces végétaux.
Merci beaucoup Jean-Pierre, vous restez avec nous jusqu'à 8h, vous allez nous parler de rosiers dans quelques minutes et vous répondrez également aux questions jardinage de nos auditeurs. Pour nous faire parvenir vos questions, vous avez trois possibilités, soit par téléphone au 0901 70 20 20. Vous pouvez aussi utiliser les SMS, vous tapez jardin, un espace et la question et vous envoyez ce message au 939 ou alors par formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission, question aux jardinières avec la possibilité de joindre une photo.
Et juste après la pause musicale, nous parlerons de rosiers.
7h, 8h, les jardinières.
Et nous sommes de retour dans les jardinières, on parle rosier, ils sont à l'honneur ce matin et on peut dire qu'il existe un rosier pour chaque situation. Jean-Pierre, il existe une grande variété de rosiers qui se déclinent sous différents aspects de port de fleurs, de feuillage, de déclinaison de couleurs et même de parfums. Chacun pourrait choisir le rosier le plus adapté à son jardin ou à son balcon, mais est-ce que vous pouvez nous en citer quelques variétés ?
Alors quelques variétés, il en est tellement que bien sûr on a été marqué par une bonne cinquantaine, je dirais. Les cités ne servent pas à grand chose, parce que ce sera des noms qui ne diront pas grand chose. Il y a les plus connus dans les papas Mélan, Madame Mélan, Lily Marlène, mais ça ne changera encore une fois pas grand chose dans tout cela, parce que la montagne de variétés, de grandeur, de formes de fleurs parfumées et autres, fait qu'on trouve effectivement des roses adaptées à peu près à chaque individu et chaque jardin. C'est surtout la personne qui va définir un peu la couleur, la forme, la grandeur, la hauteur, si ce sera des rosiers parfumés ou autres qu'il faudra servir, parce qu'en général, quand on arrive à faire un massif de rosiers, alors tous les rosiers pourront s'implanter dans ce massif. C'est pas quelque chose qui est très très particulier.
Jean-Pierre, le rosier, c'est un arbre qui est un arbuste, qui est magnifique, mais est-ce que c'est un arbuste qui est facile à vivre ?
Non, le rosier est une plante un peu délicate, qui est un peu gourmande en soins, parce que il est sujet à la rouille, à l'odium, à la moniliose, à la maladie étoilée, la fœmalgie étoilée, comme on appelle. Et puis ça, c'est des maladies qui, si elles ne sont pas traitées au préalable, s'implantent facilement. Et puis une fois qu'elles se sont mises sur les feuilles ou sur les fleurs, eh bien les dégâts restent, parce que évidemment, ce feuillage, il aura été marqué. Donc ça veut dire qu'il faut intervenir vraiment avant, ça veut dire tous les 15 jours, 3 semaines, avec un fongicide, un produit qui va justement limiter le développement des champignons. Et puis sinon, on a quand même de temps en temps au printemps de fortes attaques de pucerons, le puceron vert, qui n'est pas très difficile à éradiquer, parce qu'un traitement avec un jus de savon noir ou bien d'ortie ou un basique insecticide fera qu'ils seront facilement éliminés. Donc au niveau des soins phytosanitaires, on en est là. Et puis au niveau des soins de taille, eh bien, je dirais que toute l'année, on doit parcourir sa plate-bande, son massif avec un petit sécateur pour soi enlever un rejet de souche qui arrive, c'est une de ces pousses qui démarrent en dessous du collet de greffe et puis qu'il ne faut pas laisser s'épanouir, parce que si vous la laissez, eh bien, ça va appauvrir la vitalité de la greffe du rosier. Et puis on a toujours des fleurs qui pincent, qu'il faut couper, sectionner, et puis égaliser à hauteur le massif de plate-bande, parce qu'on sait aussi que les roses, de temps en temps, vous avez une branche, un sarment qui va pousser à 70-80 cm, et puis une fois qu'il aura fini de fleurir, eh bien, il serait plus intéressant de la remettre à 40 ou 50 cm à la hauteur de la moyenne du massif.
On a bien compris qu'il fallait prendre soin de cet arbuste, mais maintenant, est-ce qu'on doit prendre également soin du sol dans lequel on va planter le rosier ?
Le rosier est une plante qui ne supporte pas les tourbes, qui ne supporte pas les terreaux, qui ne supporte pas les terres très séchardes. Par contre, il apprécie énormément les terres arables de chez nous, dans une terre profonde, humide. On arrive à obtenir quelque chose de très joli au niveau du développement des rosiers.
Et puis pour planter un rosier, il est conseillé de le faire entre novembre et mars. On est un peu tard pour le faire maintenant. Les rosiers commencent déjà à fleurir. Est-ce que vous avez quelques conseils pour leur permettre de bien se développer ?
Alors effectivement, on les plante dans les périodes d'hiver, voire début du printemps, sous forme de racines nues. C'est des végétaux donc, qui n'ont pas de peau, pas de motte. Il y a aussi un intérêt à cela, c'est que, bien sûr, financier, il est nettement moins cher que celui qui se trouvera dans un pot. Et puis on a aussi une meilleure qualité de végétaux quand on les trouve en racines nues, parce que les pépinières, lors des arrachages, vont sélectionner les plus jolis pour les mettre en vente directe, donc en racines nues. Et puis tout ce qui sera de seconde ou troisième catégorie seront des rosiers qui seront très taillés et puis remis en pot pour partir en culture l'année d'après. Par contre, si tout à coup maintenant vous décidiez quand même de planter un massif de rosiers, vous arriveriez évidemment à trouver quand même des rosiers en pot de qualité respectable qu'on pourra implanter sans grand souci. Ce qu'il faut aussi dire par rapport à ces massifs de rosiers, on sait que quand on a eu un vieux massif de rosiers sur une longue période, eh bien, si on a envie de régénérer ce massif, il faut absolument remplacer un 50% de terre végétale, parce que le rosier, avec son développement et puis son épanouissement, eh bien, il va appauvrir une bonne partie des terres arables dans lesquelles il sera implanté. Et puis pour revenir avec une nouvelle plantation, une nouvelle terre végétale sera beaucoup plus vitale et vigoureuse pour développer notre rosier.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des jardinières. On va parler justement plus en détail des différents types de rosiers qu'il existe, en pot, à planter, etc. On se retrouve dans quelques instants.
7h, 8h, les jardinières.
Et ce matin, en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, nous parlons de rosiers. Jean-Pierre, il en existerait plus de 40 000 variétés de rosiers. Mais si vous ne deviez en retenir qu'un pour mettre à l'extérieur dans son jardin, ce serait quel rosier ?
Oui, alors évidemment que je ne peux pas en retenir qu'un. Il y en a une quantité qui me plaise, qui m'épanouit, qui me donne des envies de plantation. Par contre, ce qui peut peut-être s'expliquer dans les 40 000 et plus, on a vraiment des familles de rosiers. Ça veut dire on a la grande fleur, ça je pense que tout le monde connaît, c'est le grand rosier qui se développe en général avec une fleur terminale sur l'axe. Après, on a des polyanta ou floribunda, c'est des rosiers remontants qui sont nettement plus petits en hauteur déjà. On n'arrive pas à sectionner pour réaliser un super bouquet. Et puis le bouquet de fleurs terminales se compose souvent de 8, 10, 15 roses, mais vraiment plus petites, ce qui épanouit nettement le massif différemment. Et puis après, on a des rosiers grimpants, celui qu'on arrive à treiller, qu'on arrive à mettre sur du grillage, sur des treilles, des fils, où c'est égal. On a aussi des rosiers tiges qui sont greffés en hauteur et puis qui donnent cet aspect de rosier pleureur. C'est souvent des polyanta ou des floribunda qui sont greffés sur des tiges de rosiers sauvage à 1,50 m ou 2 m de haut. Bien sûr qu'il faut une structure pour supporter cet axe, le tuteurer, parce que sinon on a des risques qui ne se couchent. Et puis on arrive à épanouir vraiment des super rosiers en hauteur, toujours bien sûr en sachant qu'il faut vraiment vous laisser soin au niveau des interventions chimiques ou autres pour se prémunir des maladies et parasites. Et puis après, on a aussi les rosiers tapissants qu'on arrive à implanter dans les talus. C'est des rosiers qui sont très bas, qui talent et puis qui, avec la densité de feuilles et de fleurs, limitent les arrivées des plantes, des herbes indésirables dans le talus. Là, on a quelques couleurs. C'est pas la sorte de rosier où on a le plus de variétés à disposition, mais ils se ressemblent dans les formes et les hauteurs. Et les couleurs, on a du rouge, du jaune, du blond. Et puis voilà.
Et puis pour les personnes qui ne posséderaient pas de jardin, est-ce qu'il y a des variétés qui sont plus épanouies dans un pot ou sur un balcon ?
Alors le pot est un peu une prison pour un rosier, et puis sur le balcon encore plus, d'autant que sur le balcon il n'y a souvent pas d'air, il fait très chaud, et puis le rosier n'apprécie pas du tout cette situation. Et puis pour le pot, eh bien, son gros désavantage, à l'hiver, le froid va prendre le rosier par la source, par les racines. Et puis le rosier est quand même une plante un petit peu délicate, surtout au niveau du collet de la greffe, qui se trouve en général 2-3 cm en dessous du niveau de la terre, puis justement pour le protéger des froids printaniers ou hivernales. Par contre, dans le pot, le fait que tout ce pot va geler risque de créer un gros dégât hivernal sur le rosier. Donc je ne suis pas très sûr que ce soit la bonne idée de partir avec des rosiers pour des pots ou des bacs, parce qu'en plus, il faut une humidité plutôt constante, mais pas trop également. Il faut une terre arable. En général, dans les pots et les bacs, on a souvent du terreau, et puis c'est beaucoup plus délicat pour tirer en avant ces rosiers sur ces éléments-là.
Jean-Pierre, demain c'est la fête des mères et la rose sera sûrement une des fleurs stars de cette fameuse journée. Et moi j'ai une question, pourquoi est-ce que certaines roses ont des épines et d'autres pas? Est-ce que c'est naturel ou c'est une transformation de l'homme?
Alors, dans les croisements des variétés que l'on connaît, on a des densités d'épines plus ou moins denses sur les sarments. Mais des rosiers sans épines n'existent pas. Il y a toujours une ou l'autre des épines qui se trouvent sur les sarments. En général, les fleuristes, bien sûr, nettoient les épines qui se trouvent sur les branches. C'est assez facile, hein. On peut les pousser de côté et puis elles cassent relativement facilement. Bien sûr que les transformations, l'homme il en fait. La recherche de l'homme, c'est vraiment de trouver la rose noire qui n'a jamais été découverte, parce que c'est une teinte qui ne se trouve pas dans les variétés roses. Mais après, évidemment, chaque année, on a des nouvelles variétés, des nouvelles formes, des nouvelles hauteurs, des nouveaux parfums peut-être qui peuvent sortir. Ça, c'est un grand travail de nos fournisseurs qui sont plutôt au niveau mondial et puis qui arrivent à protéger après avec des royalties toutes ces variétés de roses qui sont super protégés.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Dans la suite des jardinières, on va continuer de parler encore un peu de roses. Et puis après, vous répondrez aux questions de nos auditeurs. Ce sera juste après une petite pause musicale, météo et inforoute.
Les jardinières.
Et comme chaque samedi entre 7h et 8h, les jardinières sont là pour parler de jardinage et notre spécialiste est prêt à répondre à vos questions. Ce matin, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysage à Queuve.
Et pour poser des questions à notre spécialiste, attrapez votre téléphone. Vous composez le 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et puis vous poserez votre question directement à Jean-Pierre. Vous pouvez aussi remplir le formulaire disponible sur notre site internet. Vous pourrez joindre une photo à votre question et puis vous pourrez aussi nous envoyer un SMS en tapant jardin un espace suivi de votre question et de votre nom. Vous nous envoyez ce message au 939.
Et juste avant la pause musicale, on parlait de rosiers. On va continuer sur ce thème-là. Jean-Pierre, si on reçoit un bouquet de roses, serait-il possible d'en faire des boutures pour ensuite la planter en extérieur et avoir des roses?
Alors non, on n'arrive pas à bouturer des rosiers qui ont été au préalable sectionnés pour tirer en avant une fleur, parce qu'il faut bien sûr comprendre que la fleur qui aurait été sélectionnée dans une serre, dans un tunnel pour la mettre en bouquet et la vendre, aurait été coupée presque un jour avant la mise sur l'étalage. Et puis le fait de continuer de se développer, parce que quand on les coupe, évidemment la fleur elle n'est pas du tout épanouie, elle est en bouton qui va gentiment s'ouvrir, sinon si on les cueille trop tard, quand elles sont déjà trop épanouies, arriver sur l'étalage de la vente, eh bien on aura des roses qui seront passées. Donc cette rose qui va continuer de se transformer pour s'ouvrir et s'épanouir en étant coupée va appauvrir énormément la matière nutritive qui se trouve dans son axe. Et puis, une fois qu'elle aura fini sa floraison dans le pot chez la ménagère, c'est un rameau qui sera vraiment épuisé et puis qu'on n'arrivera pas à bouturer. Il faut aussi savoir qu'une bouture, alors on peut les faire, bien sûr. La meilleure des périodes, c'est octobre, novembre, décembre. On prend du bois qui est très, très ligneux, qui n'est pas du tout herbacé, qui a été vraiment en maturité totale, qui n'est pas resté vraiment herbeux, parce que sinon, c'est des éléments qui vont geler durant l'hiver. Donc, si vous avez des belles cannes de roses que vous arrivez encore à prélever à cette période-là, là, vous pouvez faire vos boutures, vous les enfoncez à peu près de 20-21 cm dans le terrain, en les laissant dépasser de 10 cm hors sol. Et puis à cette période-là, eh bien, vous avez de fortes chances que les deux tiers de vos boutures vont démarrer. Il faut prendre aussi des segments assez grands, le plus grand possible même, on dira, selon les variétés, pour donner un maximum de chances pour se ramifier au niveau des racines. Hein, en tous les cas, ce qui a été mis en bouquet ne peut pas être multiplié par bouture, parce qu'effectivement, tout est altéré par la consommation des matières nutritives pour tirer en avant cette fleur.
Et Jean-Pierre, si on se balade en forêt, est-ce qu'on peut trouver des rosiers sauvages ?
Alors oui, il y a une panoplie de rosiers sauvages qu'on trouve. Il y a le rosier des Alpes, il y a le rosier des pâturages, il y a le Rosa Canina, il y en a une quantité de sortes. D'ailleurs, ils sont un peu tous habitués, adaptés à une situation propre. Il y en a des qui vont pousser sur des sols plutôt séchards, par exemple ceux qui sont dans les Alpes, et puis d'autres qui vont plutôt s'épanouir dans des terres très profondes, le Rosa Canina et autres. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que souvent, c'est ces sortes, ces essences-là, qui seront servies comme porte-greffe par les pépiniéristes pour multiplier les variétés de roses, parce que chaque variété de rose, en général, est greffée. Si on pratique de la bouture en tant que pépiniériste, on triche un peu, c'est pas très correct, dans le sens où la bouture, le rosier produit par ce biais, va s'épanouir peut-être 8 ou 10 ans et puis déjà s'essouffler parce qu'il n'aura pas une alimentation raisonnable au niveau du système racinaire. Par contre, avec le porte-greffe, eh bien, il est vraiment adapté à une situation donnée. Il a cette capacité d'emmagasiner, de transmettre et de transporter ses éléments nutritifs. Et puis, greffer avec une variété, ça va vraiment donner un pet intéressant et vital aux variétés de roses.
Jean-Pierre, on l'a dit, demain c'est la fête des mères. Alors si les bouquets de roses sont évidemment magnifiques, est-ce que des petits rosiers en pot sont une bonne alternative aux bouquets parce qu'ils durent théoriquement plus longtemps ?
Oui, alors on les connaît tous, ces rosiers qui sont en pot, qui sont d'une hauteur de 15-20 cm, souvent rouges. Alors bien sûr que c'est des remontants, ça veut dire un rosier remontant, il va toujours revenir à fleur derrière une nouvelle fleur. C'est pas comme par exemple, je prends bêtement l'exemple du pommier, eh bien vous avez une floraison, après vous avez la mise à fruits, et puis on s'arrête vraiment qu'à une floraison en cette période-ci. Tandis que le rosier, en remontant, eh bien vous aurez des fleurs à partir de juin jusqu'à septembre, jusqu'au froid, les premiers froids de l'automne. En général même, les froids négocient les feuilles avant les fleurs, et puis vous avez ces plates-bandes de roses où il vous reste que les boutons, plus de feuilles. Mais pour ce qui est de ces petits rosiers en pot, alors bien sûr, le fait qu'ils soient remontants, entretenus avec une sous-tasse et de l'eau, parce que c'est quand même un peu gourmand en humidité, eh bien, vous arrivez à la tenir raisonnablement un mois. Après, peu d'espoir de les mettre dans un massif chez vous, parce que c'est un rosier qui n'est pas du tout adapté à nos terres, pas du tout adapté à nos climats. C'est vraiment un écotype horticole qui a été produit justement pour des grandes productions à bas revenus, enfin à bas coût, pour avoir quelque chose d'épanoui avec des fleurs généreuses.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Dans la suite des jardinières, vous répondrez aux questions de nos auditeurs. Pour l'instant, place à la musique.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Il va maintenant répondre aux questions que vous nous avez envoyées, soit par téléphone, soit par SMS, ou soit par formulaire sur notre site internet. La première, elle nous vient de Christiane de Corneau. Bonjour, j'aimerais planter un mimosa, j'habite à Corneau. J'ai des palmiers qui poussent très bien et je voudrais planter un mimosa. Je sais qu'il existe une variété des quatre saisons. Pourrais-je avoir un peu plus de renseignements ? Merci pour vos émissions et pour votre réponse.
Oui, bonjour Christiane. Alors au niveau du mimosa, je dois dire que je ne connais pas du tout d'écotype qui puisse s'épanouir chez nous. C'est quand même une plante qui est super sensible, super fragile par rapport au froid. Sa feuille, connaissant la feuille, moi j'entends, il est impossible qu'on puisse imaginer qu'elle passe l'hiver chez nous. Donc peut-être en pot, sur une terrasse, et puis l'hiver le mettre dans un jardin d'hiver tempéré, mais en tout cas pas à des négatifs trop bas. Parce que, bien sûr, je comprends que le palmier s'épanouit. Ça, c'est une plante qui est bien adaptée à chez nous maintenant, d'autant plus avec le réchauffement. Et puis, sachant que vous êtes à Corneau, le climat du lac vous tempère de 2-3 degrés de plus que dans nos contrées jurassiennes. Et puis, évidemment, vous avez des essences qui s'habituent, qui se développent beaucoup plus facilement chez vous que chez nous. Mais pour le mimosa, peu d'espoir. J'y crois pas si ce n'est qu'en pot. Trouver ça chez un fleuriste, parce que même chez les pépiniéristes, vous ne l'avez pas trouvé, parce que c'est pas une plante qui est produite et puis mise sur le commerce par les pépiniéristes. Alors vous voulez trouver ça dans un garden, chez des fleuristes ou autres. En pot, encore une fois, comme je vous dis, mais pour le reste, en pleine terre, j'y crois pas du tout.
Bon, Jean-Pierre, vous y croyez pas pour les mimosas, mais par contre pour les semis de tomates. Est-ce que vous y croyez ? C'est une question de Sébastien de Cour qui nous demande : quand faut-il planter les semis de tomates ?
Alors, pour planter les semis de tomates, on est dans la bonne période maintenant parce qu'on est mi-mai, on sait que ces saintes glaces sont quasi derrière, on est le dernier jour. Et puis la tomate, elle aurait déjà été semée il y a 3 semaines, 1 mois, repiquée dans des pots en plante isolée, et puis maintenant on peut les mettre en place. Ce qu'on peut quand même faire, ça dépend de l'implantation, mais si c'est un espace qui n'est pas très protégé au niveau du froid et puis qui est très ouvert comme potager, eh bien on peut encore le protéger avec un journal ou une de ces cloches plastiques pour limiter les interventions du froid qu'on a encore un peu sur le matin, ça peut encore arriver. Et puis dans 15 jours évidemment pour enlever toutes les protections, si vous les protégez encore à cette période, vous voulez le forcer un peu à s'épanouir, prendre racine et puis gagner en pousse. Si vous le plantez sans protection, si on a trop d'humidité et puis encore trop de frais, eh bien il va rester stagnant et puis démarrer seulement quand les températures seront là à la hauteur du printemps. Mais en tous les cas, la période de plantation est donnée maintenant.
Et puis on pourrait imaginer manger des tomates quand ?
Les premières, je pense dans 3 semaines, on devrait avoir les premières petites tomates qui devraient être là. Après, c'est une question de température. Plus vite on aura du chaud et du soleil, et plus vite on aura une mise à fruit intéressante et mûre. Et puis si ce temps de ce printemps perdure, eh bien sûr ça va nous retarder de 15 jours, 3 semaines, la mise à fruit et la maturité des fruits.
Et puis on reste un peu dans le thème cuisine, puisqu'on a une question de Françoise Davry de Vampon qui nous dit « J'ai planté une gousse d'ail à distance d'environ 20 cm en automne, à 800 mètres d'altitude. Résultat, par gousse d'ail plantée, un amalgame de gousses avec chacune ses racines et tiges. J'ai pensé obtenir une grosse tête d'ail comme on l'achète en magasin. Merci de votre réponse. »
Alors en fait, je pense que l'erreur qu'elle a fait, bien sûr, on n'a pas la photo, si je comprends juste, elle a pris carrément toute la gousse et puis elle l'a plantée en une fois. Il aurait fallu démonter toute cette gousse, prendre ail, par élément, et puis là, elle a planté à 20 cm, pas trop profond non plus, elle n'aime pas trop la profondeur, l'ail, et puis là, elle aurait dû démarrer ce printemps et puis s'épanouir justement pour avoir ses gousses juillet-août. Après 800 mètres d'altitude, l'ail, c'est aussi quelque chose, il faut peut-être durant l'hiver la protéger un peu parce que les froids, enfin, on sait bien que les hivers ne sont plus si rudes, mais quand même 800 mètres, l'ail, c'est un légume qui demande un petit peu de température. C'est pas une plante qu'on trouve volontiers dans les zones fraîches et humides, hein. On s'imagine bien qu'elle est plutôt du côté du sud et puis elle préfère les sols plutôt drainants et puis un peu présentés à la température.
Et puis on a encore une autre question qui nous est arrivée de Sabine qui vient de La Châtagne. Elle nous dit « Quand j'ai tourné mon jardin, il y a plein de hannetons qui sont sortis, ce ne sont plus des larves. Comment est-ce que je peux m'en débarrasser ? Car c'est embêtant, ils mangent mes feuilles de framboisier. »
Oui, alors pour le hanneton qui est parti, évidemment, il a été dans le sol durant 3 ans et puis il est à son épanouissement maintenant. Et puis, comment faire pour s'en débarrasser ? Eh bien, de toute façon, le labour du potager fera que tout ce qui... Puis même, elle n'aurait pas labouré son potager, ses hannetons se seraient envolés, se seraient épanouis pour répondre, pour avoir la rotation des 3 ans de vie de ses hannetons. Donc, ce qu'elle peut peut-être faire, c'est un traitement sur le framboisier. Mais en tous les cas, l'attaque du hanneton ne va pas péjorer la maturité, la pousse de framboisier, parce que c'est une plante qui est vigoureuse, le framboisier, et puis qui va arriver à compenser aisément le dégât du hanneton sur feuille. Donc je n'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Ce qu'il faudra peut-être se prémunir, c'est dans 2 ans, à ce moment-là, certainement que l'année passée sur ce potager, elle a eu passablement de dégâts des larves des hannetons, elle s'en est peut-être pas rendu compte. Et puis quand on a ces dégâts de larves, là justement, on peut intervenir avec des phytos, un phyto par arrosage pour limiter ces larves et puis qu'elles ne viennent pas à maturité et justement éviter les dégâts, soit sur les feuilles l'année de sortie ou l'année d'avant sur les dégâts racinaires, parce qu'effectivement, on a beaucoup plus de dégâts des larves sur racines que des hannetons adultes sur le feuillage.
Et puis, merci beaucoup Jean-Pierre. On va prendre encore cette question de Jacqueline de Cornol. J'ai un érable japonais avec des feuilles vertes, un Acer Songaku. J'ai constaté que certaines feuilles de plusieurs branches sont brunes. Apparemment, elles ont dû souffrir du gel. Il reste des branches où les feuilles sont vertes, sans blessure de gel. Est-ce que les branches où les feuilles sont brunes vont reprendre? Et puis, l'arbuste est-il menacé par le gel? Faut-il couper les branches où les feuilles sont gelées? Merci d'avance de votre réponse.
Oui, Jacqueline, bonjour. En fait, votre érable, il a eu une moniliose. C'est un champignon qui est entré certainement par une petite plaie qui était donnée à l'époque par le pépiniériste pour la formation de ce végétal. Et puis là, vous n'y pouvez rien. C'est pas possible de combattre contre et la taille du pépiniériste et le champignon qui est entré par cette petite plaie pour vous attaquer la moitié du végétal, comme je vois sur la photo. Alors non, tout ce qui est sec ne va pas redémarrer, bien sûr. Et puis, pour ce qui est de la partie verte, eh bien, elle va continuer de s'épanouir. Sans tous les cas, pas un dégât de gel. Parce que si ça avait été un dégât de gel, eh bien, évidemment, on aurait tout le végétal qui aurait subi, ou une hauteur donnée, ou une grandeur de sarment aurait péri, et puis, pas le reste. Donc, dans votre cas, le mieux, ce serait de sectionner tout ce qui a été sec, ce qui ne va pas redémarrer. Et puis arrondir, égaliser le reste des branches au sécateur pour diminuer de moitié à peu près la hauteur de ce végétal pour lui justement donner un pet et puis qu'il redémarre aisément pour ce printemps.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On va vous retrouver dans quelques minutes juste après une pause musicale.
Les jardinières.
Et il est presque l'heure pour les jardinières de filer au jardin. Mais avant de vous laisser partir Jean-Pierre, dites-nous en ce week-end de Sainte-Glace, qu'est-ce qu'on peut faire au potager ?
Eh bien, si le temps se met avec l'idée de jardiner, eh bien, on pourra faire énormément de travail parce qu'évidemment, tout est à planter, quasi tout est à semer. Par contre, on a quand même des contraintes en ce moment, étant donné les humidités qu'on a. C'est très mouillé, on n'arrive pas à travailler les terres. Et puis, planter dans cette situation n'est pas forcément très intéressante si vous avez des terres très lourdes. Et puis après, on peut malheureusement pas dire qu'il faut les bâcher pour éviter qu'elles ne se soient mouillées et puis qu'elles sèchent, parce que bâcher, c'est encore pire. Justement, cette humidité va arriver au contact des plastiques. Et puis ça va densifier cette humidité. Donc ceux qui arrivent à travailler leur terre, tout ce qui est de plantons peut être planté sans souci, les semis également, mais là je doute encore un peu parce que la terre est très lourde et très humide pour le moment. Et puis pour ceux qui sont dans des surfaces encore trop humides, eh bien prends ton mal en patience, éventuellement travailler déjà les plantons qu'on a chez soi, quitte à les pincer pour qu'ils ne s'étiolent pas en hauteur, pour arriver à les implanter après dans le carreau. Et puis pour le reste, eh bien attendons le grand soleil et les chauds quoi.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour votre visite matinale. On rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribot Paysages à Queuves. À très bientôt chez les jardinières et bon week-end.
Et bon week-end à tout le monde, merci tout le monde.
Oui, samedi prochain, 17h, nous serons en compagnie de Stéphane Caravellas, maraîcher en permaculture, micro-ferme biologique, La Rochette à Charmoil dans le Jura. Alors n'attendez pas samedi prochain pour poser vos questions, faites-le en tout temps, remplissant le formulaire sur notre site ou par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et votre nom et vous nous l'envoyez au 939. Un bon week-end, bye Brian.
Au revoir Mike.
7h, 8h, les jardinières.